le magazine des Nations Unies.
Dialogue stratégique sur le retrait de la MONUSCO et l'appui au FRDC contre les FDLR. Deux points de Martin Kobler devant la presse mercredi dernier. Réduction des violences sexuelles à hauteur de 31% au sein des forces loyalistes. Les FRDC sont en train de glaner des points dans la lutte contre ce fléau et cela est un véritable succès, reconnaît la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles, Madame Zainab Bangoura, est l'invitée de notre magazine. Choléra, le Katanga à la tête du peloton des provinces frappées par cette épidémie. Les humanitaires et bien d'autres se mobilisent pour venir à bout de cette maladie. Au Tchad, le bureau de coordination des affaires humanitaires monte au créneau pour faire le plaidoyer. Des détails dans cette édition. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le gouvernement et la MONUSCO ont entamé le dialogue stratégique sur le retrait de la mission onusienne de la RDC conformément à la recommandation du Conseil de sécurité contenue dans sa résolution 2211. Révélation du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU mercredi dernier à la conférence des Nations Unies à Kinshasa. Toutefois, ce retrait par étapes est lié à certaines conditions, précise Martin Kobler. Le chef de la MONUSCO plaide également pour l'appui de la MONUSCO et FRDC dans la traque contre les FDLR. Jean-Pierre Elali a assisté à cette conférence de presse. Suivez son compte-rendu.
La MONUSCO et le gouvernement congolais ont ouvert mercredi 25 mars les discussions sur le retrait progressif de la mission onusienne. Il s'agit, selon les représentants spéciaux de Ban Ki-moon en RDC, d'un dialogue stratégique sur le retrait de la MONUSCO. Dialogue stratégique qui est en fait une recommandation du Conseil de sécurité dans sa résolution 2211. Et selon le chef de la MONUSCO, ce retrait par étapes est lié à certaines conditions. Martin Kobler.
Cette stratégie du retrait, c'est lié aux situations militaires. C'est premièrement la réduction de la menace. La réduction de la menace en particulier à l'est du pays, dans les territoires qui sont affectés par les groupes armés. Si nous devons partir du pays, il faut créer une situation sécuritaire qui est mieux. Et le plus vite nous le fassions ensemble avec les FRDC, le plus vite nous pouvons réduire notre dispositif de la force. Mais aussi deuxième, c'est un autre aspect, le renforcement des pratiques démocratiques, comme un processus d'élection crédible, comme le respect des droits de l'homme. Ce ne sont pas exclusivement des éléments militaires qui déterminent la stratégie du retrait, c'est aussi le renforcement des pratiques démocratique ici dans le pays. Je crois que c'est très important de mentionner.
Autre point non moins important débattu avec les journalistes, c'est l'appui de la MONUSCO au FRDC dans les opérations de traque et de FDLR. Faut-il alors continuer à faire cavalier seul? Martin Kobler est d'avis qu'au regard de la situation sur le terrain, le FRDC et la MONUSCO sont appelés à travailler ensemble.
Pourquoi j'étais le jeudi et le vendredi à l'est, à Nyanzale, pour voir l'effet de la non-coopération? Je suis rentré ici à Kinshasa avec la ferme impression qu'il faut reprendre le soutien pour les FRDC le plus vite possible, parce qu'on a une certaine faiblesse dans les opérations et c'est l'unité qui fait la force. Nous sommes là avec une compagnie Andiansal qui est très très fort. Nous avons des moyens, nous avons les rations, nous avons aussi les moyens de combattre conjointement avec les FRDC. Nous avons le mandat de combattre les FDLR, mais aussi nous avons le mandat de respecter les droits de l'homme et de suivre notre politique de droits de l'homme.
Notons que les conclusions du dialogue stratégique de retrait sont attendues au Conseil de sécurité en septembre prochain.
Beaucoup de mines, mais pas assez d'eau. C'est l'intitulé d'une note d'information publiée mardi dernier par le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA sur la situation du choléra au Katanga. Selon le chargé de communication et plaidoyer à OCHA, en 2013, le Katanga a enregistré deux fois plus de cas que toutes les autres provinces de la RDC réunies. Et depuis le début de l'année 2015, près de 2000 cas, dont 37 décès, ont été enregistrés. Selon OCHA, le choléra est un problème qui nécessite une approche globale pour lequel le gouvernement congolais a un rôle important à jouer. Yvan Edoumou évoque toutes les stratégies mises en place pour lutter contre cette épidémie.
Depuis 2013, la RDC a initié un vaste programme de lutte contre le choléra à travers le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra qui couvre la période 2013-2017. Cependant, bien avant l'élaboration de ce plan, déjà en 2006, le gouvernement congolais, en collaboration avec UNICEF et d'autres bailleurs, ont initié un vaste programme de développement dénommé Village et École Assainie. C'est un programme qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement de plus de 11 millions de Congolais d'ici 2017. Comme dans les autres provinces du pays, ce programme est évidemment implanté au Katanga, où la qualité de certaines eaux est de plus en plus détériorée à cause des minéraux.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 4 avril, c'était hier samedi, les Nations Unies célèbrent à cette date la journée internationale sur la sensibilisation au danger des mines et de la lutte anti-mines. En RDC, le gouvernement, à travers le Centre Congolais de lutte anti-mines, CESALAM, et le Service de lutte anti-mines des Nations Unies, UNMAS, et leurs partenaires, ont commémoré cette journée en deux temps. Mercredi 1er avril à Kinshasa et jeudi 2 avril à Goma. Notre invité dans cette rubrique est M. Grégory Robin, coordonnateur du projet UNMAS. Il s'entretient avec Honoré Misenga Kalala autour de cette journée et des résultats de lutte anti-mines et du rôle que joue son service dans l'élimination des mines antipersonnelles en RDC. Suivez.
Monsieur Grégory Robin, bonjour.
Bonjour.
Le 4 avril est une journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. Quel est l'objectif de cette journée pour les Nations Unies?
Cette journée de commémoration internationale est placée cette année sous le thème « Au-delà des mines ». L'objectif de cette journée au niveau international est de faire prendre conscience qu'au-delà des risques des mines, il existe d'autres dangers, dont les munitions non explosées qu'on appellera les restes explosifs de guerre, auxquels font face les populations, les organisations, les Nations Unies, les humanitaires qui travaillent dans les zones. Et toutes ces munitions non explosées tuent plus de civils que les mines en RDC. Et également, au niveau mondial, on peut rajouter à ces menaces que sont les mines, les restes explosifs de guerre, on peut rajouter également les engins explosifs improvisés qui sont utilisés dans différents pays du monde.
Alors, Monsieur Robin, quelles sont les activités prévues dans le cadre de cette journée en RDC?
Suite à l'arrivée des autorités nationales et des représentants des différentes organisations internationales, le Centre congolais de lutte anti-mine va organiser une démonstration de déminage. Et ensuite, il y aura également des stands de tous nos partenaires de lutte anti-mine qui peuvent être présents pendant cette journée.
La RDC a lancé en 2012 son plan stratégique national de lutte anti-mine, un plan quinquennal qui va jusqu'en 2016, donc l'année prochaine. À une année de la fin de ce plan stratégique, quel serait le bilan et en quoi consistait la participation de votre organisme, l'UNMAS?
Dans le cadre de ce plan stratégique, pour lequel il nous reste encore environ 18 ou 20 mois pour l'achever, UNMAS s'est efforcé de développer les capacités nationales de la lutte anti-mine, principalement. Et puis également, en parallèle, a conduit les opérations de risque d'éducation aux mines, et puis des opérations de dépollution des champs de mines ou des champs contaminés par les restes explosifs de guerre.
C'est tout ce qu'on peut retenir comme bilan de cette activité.
Cette activité va continuer, bien sûr, puisque l'objectif final, c'est l'autonomie complète du Centre congolais de lutte anti-mine, qui pourra effectuer toutes les activités qui couvrent les cinq piliers de la lutte anti-mine. Donc, on vise à développer la partie d'éducation au risque des mines, la partie des pollutions, la partie du plaidoyer, bien sûr. Et puis ensuite, on va continuer sur les assistances aux victimes par mine. Donc, tout ça à travers des entraînements, de la formation, des opérations conjointes avec le Centre congolais de lutte anti-mine.
Alors, en mars 2013, la RDC a également lancé une enquête nationale sur l'identification des zones contaminées par les mines. Deux ans après, quels sont les premiers résultats de cette enquête?
Les résultats à l'issue de cette enquête sont que 130 zones minées ont été découvertes et confirmées, et 5 zones contaminées par des sous-munitions ont également été découvertes. Donc les opérations en 2014 ont commencé dans ces zones pour déminer et décontaminer ces zones.
Les 130 zones découvertes, c'est dans quelle province justement?
Et on a une grosse contamination bien sûr dans l'est du pays, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Katanga, toutes ces provinces. Et puis on a également une grosse contamination dans l'Équateur.
Oui, vous avez parlé de l'assistance aux victimes. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre des victimes des mines antipersonnelles en République démocratique du Congo les 10 dernières années par exemple?
Oui, bien sûr. Au total, on décompte jusqu'en décembre 2014 2563 victimes, dont à peu près la moitié, 1053, ont été malheureusement tués et 1487 sont blessés.
Comment se passe leur prise en charge ?
Il y a des mécanismes qui sont en place pour la prise en charge. Bien sûr, tout ça est lié aux fonds disponibles et aux bailleurs, mais les projets sont en place. Mais bien sûr, ça demande encore plus de fonds pour pouvoir suivre ces victimes.
Jusqu'en 2012, le travail de déminage en RDC n'avait atteint que 30%. À combien peut-on évaluer ce travail aujourd'hui, en 2015?
Comme vous le savez, l'enquête de 2013 a déterminé qu'il y avait 135 zones contaminées par mines et sous munitions. Sur ces 135 zones, 12,5% d'entre elles ont été décontaminées et déminées en 2014. C'est un faible résultat, mais c'était un faible résultat dû notamment à la perte des fonds, puisque les fonds en 2014 alloués à la lutte antimine étaient très faibles. Cette année 2015-2016 reverra une forte augmentation au niveau des zones déminées, puisqu'on a réussi grâce à l'allocation d'un budget donné par le peuple japonais, qui va nous permettre en 2015 de vraiment faire un bond en avant dans le déminage de ces zones.
Monsieur Grégory Robin, l'UNMAS s'occupe aussi de la gestion des stocks de munitions. Et à cet effet, votre organisme avait initié un projet de la gestion des sécurisations des munitions en RDC. Où en est-on avec ce projet ?
Eh bien, donc, le comité de revue des projets d'impact de la MONUSCO vient récemment d'approuver pour UNMAS de rénover des commissariats et donc leur stockage d'armes et munitions dans les zones de Rouchtourou, Kinyandoni et Niamilien dans le Nord Kivu.
Oui, ça, c'est des projets, mais il y a déjà des actions qui ont déjà été concrètement réalisées.
Oui, il y a des actions qui ont déjà été concrètement réalisées. UNMAS, en 2013, a participé aux constructions du dépôt de Kisangani. Donc, il y a des choses qui sont en cours. Et encore une fois, on est à la recherche de bailleurs pour pouvoir continuer ces projets qui sont très importants, notamment dans le domaine de la réduction de la violence armée.
Monsieur Robin, la RDC, 100 mines d'ici 2020, vous pensez que cet objectif peut être atteint ou plutôt c'est un rêve ?
C'est pas un rêve. L'objectif est là. On va mettre en place, comme je vous le disais, grâce au fonds du gouvernement japonais, des équipes qui vont être déployées dès le mois de mai dans les zones du Nord Kivu, Sud Kivu et Nord Katanga. L'objectif, c'est dans les mois qui viennent de libérer au moins déjà ces provinces de la menace mine et puis progresser comme ça au fur et à mesure des années. 2020, c'est tout à fait un objectif qui est à portée de la main à partir du moment, bien sûr, où on a les fonds nécessaires pour déployer ces équipes.
Oui, pourvu qu'il n'y ait plus d'autres guerres.
Bien sûr, dans toutes ces contaminations, on parle d'un pays libre des mines. Tous ces conflits, bien sûr, au niveau mondial, apportent une contamination en restes explosifs de guerre, en munitions abandonnées. Et maintenant, aujourd'hui, la menace évolue et la menace sur les populations évolue également. Et aujourd'hui, ce sont ces munitions qui comportent un grand risque pour les populations et notamment pour les jeunes enfants qui ont tendance à vouloir toucher ou jouer avec les munitions et donc être victimes d'accidents.
Monsieur Grégory Robin, est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à la mission de UNMAS qui appuie le gouvernement dans la lutte anti-mine?
On apprécie énormément la coopération qu'on a avec le Centre congolais de lutte anti-mine. On travaille main dans la main avec la MONUSCO. On travaille également avec toutes les agences humanitaires. C'est un beau projet, c'est un beau programme et on espère que 2020, on aura atteint nos objectifs d'un Congo libre des mines.
Monsieur Grégory Robin, merci.
Merci à vous.
Santé animale cette fois-ci, une campagne pour anéantir la peste des petits ruminants dans le monde d'ici 2030. Les stratégies d'éradication de cette maladie ont été conjointement présentées la semaine dernière par la FAO et l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, au cours d'une conférence internationale tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon le communiqué de presse émanant de la FAO et daté du 31 mars, la peste des petits ruminants est présente dans 70 pays de l'Asie du Sud et de l'Est, de l'Afrique et du Proche-Orient. Elle pourrait même prendre pied en Europe si elle n'est pas maîtrisée, ajoute la source. Enfin, droits de l'homme, accompagner les défenseurs de droits de l'homme dans leur lutte, c'est l'objectif d'un atelier de réflexion sur les 10 portant protection des défenseurs de droits de l'homme et journalistes au Sud Kivu. Atelier organisé la semaine dernière à Bukavu par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu, l'ONG internationale et la société civile de cette province ont collaboré dans la tenue de cet atelier.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Réduction de 31% des violences sexuelles au sein des FRDC grâce aux efforts réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord entre le gouvernement et les Nations Unies, alors que le phénomène a atteint 69% chez les groupes armés. C'est ce qu'a reconnu lundi dernier la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit lors de sa visite de travail à Kinshasa. Madame Zainab Bangoura est l'invitée de notre magazine. Elle s'entretient avec Jean-Pierre Elalé Ikoko.
Madame Zainab Bangoura, bonjour.
Good morning and thank you.
Merci d'être venu ici à Radio Kapi. Vous êtes en visite de travail en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons connaître l'objet de votre visite, madame?
Thank you very much. Today is the 2 years anniversary since we signed the...
La journée d'aujourd'hui marque le 2e anniversaire de la signature du communiqué conjoint avec le gouvernement dans son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles, également de l'apport qu'il devait apporter dans ce domaine. En commémoration de la signature de ce communiqué conjoint, nous allons assister aujourd'hui à la signature d'un document et la mise en place de la commission en charge du suivi des violences sexuelles dans les forces armées dans le cadre de la lutte en elle-même.
It also gives me an opportunity to see.
Cette visite sera également l'opportunité d'avoir des échanges avec le gouvernement de la RDC pour évaluer le chemin couvert jusque-là, les problèmes, l'état actuel de la chose et les perspectives ainsi que les solutions envisagées pour résoudre les problèmes identifiés.
Madame, justement, vous parlez de la recherche des solutions. En septembre 2014, et donc l'année passée, vous avez assisté au lancement du plan d'action des FARDC contre les violences sexuelles. Vous revenez ici 6 mois après exactement. Vous avez rencontré les autorités congolaises, donc les autorités militaires. Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de la mise en application de ces plans d'action? Est-ce que les violences sexuelles ont diminué en République démocratique du Congo ou pas?
I think they have gone a long way.
Comme je vous disais tout à l'heure, le lancement de cette commission rentre en droite ligne de ces initiatives identifiées dans le plan d'action des FRDC. Le lancement de cette commission, tout comme la signature de l'engagement par les chefs d'unité de commandement des FRDC. Aussi, toutes ces mesures rentrent en droite ligne de la lutte pour réduire de l'ordre de 31% les phénomènes de violence sexuelle en RDC. Et en termes de chiffres toujours, je puis vous rassurer que désormais, ces actes sont posés à hauteur de 69% par les membres des milices et groupes armés.
So in effect, I can tell you that the implementation has been very, very successful.
Autant dont vous dit que la mise en œuvre du plan d'action a été vraiment un véritable succès.
Voilà, mais à l'époque, en ce qui concerne les groupes armés, et l'ancienne ministre du genre et famille avait estimé que ces violences au sein des groupes armés et de la police étaient de 6%, c'est un des FARDC bien entendu, et de 36% au sein des miliciens. Est-ce qu'on peut dire que vraiment il y a eu diminution de violences sexuelles en République démocratique du Congo?
Alors, autant vous dire que le phénomène a réduit considérablement dans le pays, considérablement dans le domaine des violences liées au conflit, même si j'admets qu'il y a quand même des violences qui continuent d'être perpétrées au sein des communautés. Et déjà, dans un échange que j'ai eu avec le chef, le commissaire général de la police, nous avons discuté des voies et mesures pour résoudre ce problème.
Vous parlez de cette rencontre avec les responsables de la police nationale congolaise. Quelles sont les nouvelles stratégies que vous proposez pour efficacement lutter contre ces violences sexuelles, notamment à l'est du pays?
Le problème actuel en ce qui concerne la police, c'est donc justement de veiller à son déploiement sur tout l'étendue du territoire national. Autant vous dire que la PNC a déjà développé son plan d'action à lui et ils ont déjà à leur sein une unité en charge de la lutte contre les violences sexuelles. Donc l'enjeu désormais, c'est de disséminer ce phénomène à travers le pays, de dupliquer les institutions d'unité de lutte contre les violences sexuelles dans d'autres localités du pays et également de travailler dans le domaine de la conduite des enquêtes, précisément dans la collecte des éléments de preuve, la préservation des éléments de preuve afin de les mettre à disposition des autorités judiciaires en charge de la poursuite judiciaire.
Et c'est la même stratégie en ce qui concerne les FARDC?
Well, I think the deployments across the country will be with the national police.
Alors, le déploiement ne sera fait qu'avec la PNC. Déjà avec les FARDC, nous avons des programmes qui sont déjà en mise en œuvre. Alors, les FRDC, quant à eux, vont plutôt continuer de travailler en ce qui les concerne dans les zones pour améliorer donc justement les relations avec les communautés où elles sont impliquées. En ce qui concerne donc la PNC, il appartiendra de développer donc leurs mesures, leurs actions pour veiller à ce que les solutions envisagées puissent être traduites en réalité, précisément parce qu'il s'agit d'un problème d'ordre public, il s'agit d'un problème de préservation de l'état de droit pour veiller à ce que la police soit déployée pour la conduite des enquêtes et les actions subséquentes.
Ce déploiement aussi nécessite un appui de la part des Nations Unies.
Definitely. I mean, we work together as a UN entity. Our job as the United Nations is to support the governments of the DRC.
Bien entendu, ce déploiement aura besoin d'un appui des Nations Unies et déjà, nous travaillons en tant qu'entité des Nations Unies dans la dynamique de groupe des Nations Unies. Ainsi donc, nous venons en tant que Nations Unies en appui aux autorités congolaises, en appui à la mise en œuvre de toute action visant à la restauration de l'état de droit.
Madame Bangoura, la lutte contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles est l'une des stratégies. Madame Janine Mabunda, la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles, en fait aussi une de ses priorités. Toutes deux, vous êtes des femmes. Comment pouvez-vous, dans une action commune ou même dans un appui des Nations Unies, renforcer cette stratégie?
For the United Nations, sexual violence is...
Comme vous le savez, pour les Nations Unies, la question des violences sexuelles, c'est une question liée à la paix et la sécurité internationale, qui en appelle donc justement à une réponse en termes de justice et en termes même de paix. La lutte contre l'impunité et l'appui aux victimes de ces violences sexuelles fait partie des mesures que nous avons développées en tant que Nations Unies. Et sous ces principes, nous travaillons en étroite collaboration avec Mme Mabunda. Et avec elle, nous nous rassurons et nous le rappelons tout le temps que tous les auteurs présumés ou coupables donc de ces actes de violence, aussi bien dans le cadre de la justice militaire ou de la justice civile, que tous les auteurs reconnus soient punis selon les règles prévues par la loi. Aussi donc, Mme Mabunda fait le suivi auprès du ministère de la Justice pour que tous les auteurs reconnus coupables puissent en effet et effectivement qu'ils puissent justement servir la peine d'emprisonnement après les condamnations qui leur ont été prononcées. Alors, je crois que Mme Mabunda fait un travail remarquable en termes de suivi auprès de tous les ministres sectoriels et autres administrations impliquées dans ce processus de poursuite judiciaire des personnes rendues coupables. Et déjà, je peux parler le cas de 137 personnes qui ont été reconnues coupables là-dessus. Et je crois que son travail est vraiment louable là-dessus.
Une dernière question, madame. Vous êtes la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Vous êtes ici à Kinshasa, vous avez rencontré les autorités politiques, vous allez aussi rencontrer les autorités militaires. Vous n'aurez pas l'occasion d'arriver à Goma, mais maintenant je vous pose la question de savoir le message que vous adressez aux victimes des violences sexuelles, et notamment dans l'est du pays.
My message is simple.
Mon message de ces victimes de violences sexuelles est très simple. C'est de dire que toutes ces personnes, tous ces auteurs de violences sexuelles, où qu'ils se trouvent, nous allons mettre la main sur eux et ils vont répondre de leurs actes au niveau national et au niveau international. Et le deuxième message que je voudrais envoyer s'adresse au niveau du gouvernement et aux organismes des Nations Unies pour que pour toutes ces victimes, toutes les mesures, que ce soit judiciaire, que ce soit celles qui soient mises en place pour elles. Et troisièmement, nous travaillons avec les agences multilatérales et les autres bailleurs de fonds pour venir en aide à ces victimes de violences sexuelles, pour mettre en place des mécanismes de compensation et de réparation qui permettraient justement à ces victimes de violences sexuelles de refaire la vie après avoir souffert cette atrocité.
Madame Zainab Bangoura, Radio Kapi vous remercie d'être venue pour parler des violences sexuelles en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup.
L'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM, antenne du Katanga, a procédé samedi dernier à la sensibilisation de près de 400 femmes vulnérables encadrées par l'ASBL Saint-Vincent-de-Paul de Lubumbashi sur les méthodes de planification familiale et l'autonomisation de la femme. Ceci en partenariat avec l'UNFPA, Organisation des Nations Unies pour la Population. Denise Maéo a assisté à cette manifestation. Elle s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Denise Maéo, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre et Lali Coco.
Oui, l'Union congolaise des femmes des médias, antenne du Katanga, est allée samedi dernier à la rencontre de près de 400 femmes vulnérables de la ville de Lubumbashi. Vous étiez présente à cette manifestation, Denise. Dites-nous comment elle s'est déroulée.
Oui, Jean-Pierre et Lali, la sensibilisation a eu lieu au quartier Luowoshi. C'est un quartier périphérique de la ville de Lubumbashi. L'Union congolaise des femmes des médias et COFEM, antenne du Katanga, en partenariat avec UNFPA, a échangé avec des centaines de femmes de l'ASBL Saint-Vincent-de-Paul sur deux thèmes, à savoir les méthodes de planification familiale et l'autonomisation de la femme. Parlant des méthodes de planification familiale, Madame Mami Nyangé, chargée de communication du Programme national santé de la reproduction, a rappelé les avantages de planifier les naissances. C'est notamment protéger la santé de la mère, lutter contre la mortalité maternelle, lutter contre la pauvreté, etc. Parmi les méthodes, Madame Mami a présenté des sortes de pilules, les produits de contraception par injection, les implants et les préservatifs tant masculins que féminins. Il faut préciser, Jean-Pierre, que certaines femmes étaient accompagnées à cette sensibilisation de leurs époux.
Denise, le second thème de cette sensibilisation a porté sur l'autonomisation de la femme.
Effectivement, Jean-Pierre, ce thème a été développé par l'ICOFEM Katanga. Pour la coordonnatrice provinciale, l'autonomisation de la femme sur tous les plans passe d'abord par l'éducation et l'instruction. Or, la quasi-totalité des femmes encadrées par l'ASBL Saint-Vincent-de-Paul ne sont pas instruites. Donc, pour les récupérer, que cette ASBL organise en leur faveur des cours d'alphabétisation. Ensuite, elles apprendront des métiers tels que la couture, l'esthétique, la coiffure, la pâtisserie et la cuisine. L'UCOFEM a encouragé ces femmes à persévérer car c'est la seule façon de les rendre réellement autonomes. Notez également, Jean-Pierre, que cette sensibilisation de l'UCOFEM a été menée à l'occasion de la clôture par l'ASBL Saint-Vincent-de-Paul du mois de la femme.
Voilà, merci Denise pour toutes ces informations sur la femme au Katanga et excellente journée dominicale à Lubumbashi.
Merci Jean-Pierre et Lali.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Écoutez la question de Jérémy Kiambou de Radio Taïna à Goma, question posée mercredi passé lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies et la réponse de Martin Kobler, chef de la MONUSCO.
Vous allez reprendre votre coopération avec les FARDC, mais pourquoi vous ne menez pas jusque-là la traque contre les FDLR unilatéralement, comme exige votre mandat? Quand vous allez reprendre cette coopération, est-ce que vous allez mettre de côté ce problème qui vous repousse avec le gouvernement congolais, celui des généraux que vous indexez de violation des droits de l'homme?
Je crois que ce n'est pas tellement sage d'avoir des opérations unilatérales maintenant. On a maintenant deux groupes qui sont dans le même territoire. C'est pourquoi, pour moi, c'est toujours très important de visiter les places. Imaginez Nyanzale. Nyanzale, c'est un territoire de responsabilité pour nos troupes et aussi les FRDC de 30 km sur 50 km. Ils ne coopèrent pas opérationnellement. Qu'est-ce qu'on fait par là? Alors, ce n'est pas tellement très sage du point de vue militaire ni politique, alors de faire les opérations unilatérales maintenant. Et on est en discussion en ce qui concerne la politique de droits de l'homme, en ce qui concerne le leadership, par là, de le discuter avec le gouvernement.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Landoulou Yabob, Bob Milandou pour les intimes. Je suis marié, deux enfants, un garçon de 13 ans et une fille de 9 ans. J'ai commencé par la formation agro-industrielle, donc j'ai fait la chimie industrielle. Ensuite, j'ai fait la technique, l'électronique. Et je suis à la MONUSCO aux Nations Unies depuis le 2 juillet 2002, mais j'ai commencé un peu plus tôt, le 19 février. Disons que j'assume la fonction d'opérateur de prise de son et de producteur vidéo. J'ai la charge de gérer les studios et les techniciens du studio. Chaque jour, quand j'arrive, il faut d'abord que je vois que mon équipe est en place. Ça, c'est un. De deux, j'ai fait des rotations pour le mois. Je donne des tâches quotidiennes aux techniciens. Je veille à ce que le studio soit toujours en bon état de fonctionnement. Je veille à ce que le signal émis par notre radio soit toujours de bonne qualité. J'ai fait la courroie de communication entre mon équipe et notre superviseur, et aussi avec les autres unités de la radio. J'ai fait aussi la conférence hebdomadaire de la mission, tous les mercredis de chaque semaine. Nous faisons aussi des directs en cas de panne. Nous intervenons rapidement lorsqu'il y a une panne au studio ou bien il y a quelque chose qui manque. J'ai fait aussi un peu le help desk. Le help desk, c'est aider nos collègues journalistes quand ils ont des petits problèmes techniques, de son, de montage. C'est beaucoup de petites choses à la fois que je fais chaque jour. Avant la MONUSCO, j'ai travaillé avec une structure de communication des missionnaires du Verbe divin. C'était un complexe de médias où il y avait la vidéo, le son et la radio. Et moi, je m'occupais du son et de la radio. Comment est-ce que je gère mon temps? Moi, j'ai pas un temps libre. Je suis tout le temps occupé. Quand je suis pas à la MONUSCO, je suis dans mes activités de son, des studios, d'arrangements musicaux. Et aussi, actuellement, je suis en train d'apprendre l'allemand. Donc, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas un temps libre. Je suis tout le temps en pleine activité. Et j'aime la musique. La musique, c'est moi-même. Donc, depuis que je suis bébé, peut-être, et enfant, oui, ça, je connais déjà. Donc, j'aimais déjà la musique. Je suis polyvalent. Je joue plusieurs instruments musicaux, guitare, piano. Je fais la programmation musicale. Donc, je connais la musique en tant qu'art, en tant que technique. J'ai même joué avec des grands artistes ici au Congo, des artistes qui sont très connus, des grands orchestres. J'ai beaucoup voyagé avec des artistes, que ce soit en Afrique ou au Congo. Donc voilà, j'aime aussi les sports, le foot, même si je joue plus, ça fait longtemps que j'ai arrêté de jouer. Mais ce que je pratique souvent, c'est la marche. Le projet d'avenir, j'ai commencé ma carrière dans le média. Il y a 5 ans, j'ai créé un festival qui s'appelle Festarja. Donc je veux rester toujours dans ce domaine-là que j'ai commencé comme carrière. Donc un jour, créer un grand complexe médiatique où on trouvera la radio, la télévision, la production musicale, production cinématographique, pourquoi pas. Mais j'ai déjà commencé, j'ai un festival que j'ai moi-même conçu, créé et qui est en train de prendre petit à petit ses marques.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Deux journées parmi d'autres à retenir la semaine qui commence dans le calendrier des Nations Unies. Le 7 avril, la Journée mondiale de la santé, et le 12 avril, la Journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'est la fin de ce numéro de magazine des Nations Unies, édition supervisée par Ben Kabamba avec la coordination de Jean-Pierre Elali Ikoko. Honoré Misenga était au reportage. Moi, c'est Thérèse Bassoubi à la présentation et à la technique Mimi Kindou. Vous pouvez écouter cette émission sur le site de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission du magazine des Nations Unies. Excellente journée dominicale à tous.